France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Luc Plamondon, l'homme qui nous a fait aimer par ses chansons les plus grands artistes québécois, de Diane Dufresne à Garou, mais aussi l'auteur qui a transformé la chanson française et ses spectacles musicaux de Starmania à Notre-Dame de Paris. Luc Plamondon à mes côtés dans un instant pour revenir sur sa vie, ses goûts, ses influences. En fin d'émission, un petit choix d'archives signé Beethoven ou Léo Delibes. Mais avant tout cela, une valse printanière pour chanter les fleurs de Paris et d'ailleurs.
Printemps de Paris, tout recommence, tout chante et tout sourit.
Bonjour ma très chère voisine,
monsieur mon voisin, bonjour.
Vous voilà tout s'illumine, le beau temps est de retour.
Comment marchent les affaires?
Mais pas mal du tout, merci. D'ailleurs tout va bien ma chère, puisque vous êtes assis ici.
Du printemps de Paris, le soleil dansant dans les jardins fleuris. Chanson câline au retour des beaux jours, chanson divine qui nous parle d'amour. Le ciel descend par la fenêtre dans son habit bleu de gala.
D'air, dès qu'il pénètre, vous flanque un corisage.
C'est la romance du printemps de Paris. Tout recommence, tout chante et tout sourit.
Bonjour ma très chère voisine,
quel plaisir quand on vous voit.
Vous avez fort belle mine,
et sur toi là qu'on est trois.
Rideaux tirés, vitres closes, faisiez-vous donc, monsieur?
On s'en va chercher des roses lorsque l'on est amoureux.
C'est la romance du printemps de Paris. Sa voix immense soudain nous a surpris. Dans les chambrettes, on entend des chansons. Ces jours de fête.
Pour la
nuit du maçon. En un instant, le cœur oublie les vieux chagrins, les vieux moments.
C'est la saison la plus jolie, la saison des amants.
C'est la romance du printemps de Paris. Tout recommence, tout chante. Et tout sourit.
La romance du printemps, vous avez peut-être reconnu la voix de Jacqueline Boyer avec les duettistes de l'époque, Pils et Tabé. C'était en 1937 et c'est d'ailleurs extrait d'une opérette qui s'appelait La Belle Saison de Jean Delettres et Jean Delettras, œuvre bien oubliée. Mais je crois que nous allons parler, parmi beaucoup d'autres choses, un peu justement d'opérette tout à l'heure avec mon invité, dans un instant d'ailleurs, Luc Plamondon.
Thank you.
Félix Slatkin et ses cordes fantastiques dans Fidgety Feed, un enregistrement de 1963.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais autant vous le dire, d'ailleurs vous l'avez compris, je suis heureux ce matin de recevoir un très grand artiste auquel Diane Dufresne, Balavoine, Céline Dion, Julien Clerc ou Garou doivent quelques-unes de leurs plus belles chansons. Il a commencé au Québec, mais c'est la chanson française tout entière à laquelle il a donné un ton nouveau, ce ton qui enchantait déjà mes années d'adolescence, rythmé par les refrains de Luc Plamondon. Moi, aujourd'hui, je rencontre un des auteurs de ma vie. Bonjour, Luc Plamondon.
Finalement, ça aurait pu être une chanson d'opérette. Bon, c'est une opérette rock, pop plutôt.
Mais c'est vrai.
C'est une chanson joyeuse. On a fait plus des chansons joyeuses, c'est dommage.
Non, d'ailleurs, on vous associe, évidemment, encore plus après Notre-Dame de Paris, tout ça, à des succès très lyriques. Mais oui. Comme vous disiez à l'instant, la chanson joyeuse, c'est un genre qu'on entend peu. Et c'est pas facile non plus à faire.
Je t'aime comme un fou pour... Charles Bois, j'ai fait les livres où l'aller danser avec Julien Clerc, c'est une chanson joyeuse aussi.
Oui, c'est vrai, bon, c'est vrai.
Mais quand une chanson joyeuse fait un tube, ça reste longtemps parce que, je ne sais pas, les gens l'ont fredonné. C'est difficile de fredonner le monde des Stones ou la blues du businessman. Bon, les gens le font, mais c'est très difficile à chanter, tandis que ça... Tout le monde fait, quand on dit Diane Dufresne, tout le monde dit...
Écoutez, voilà, moi j'avais 12-13 ans, j'écoutais ça en boucle, je ne savais pas que je vous rencontrerais un jour, longtemps après. Ouais. Mais parce qu'il faut le rappeler, ça a été votre premier très grand succès, celui qui a vraiment transformé votre carrière québécoise en carrière française et internationale.
Le succès aussi de Diane Dufresne, c'était la première chanson qu'on faisait ensemble et elle était numéro un au Québec et on est venu nous chercher pour nous amener en France. Mais les gens qui sont venus nous chercher, c'était Bertrand Delabé qui me proposait d'être mon éditeur et Eddie Barclay qui proposait de sortir le disque. Ouais. Et c'était pas n'importe qui. Et Marie-France Brière qui régnait à Europe numéro 1, elle dit « Mais moi, j'en fais un tube. » On avait rien fait pour venir, on n'a pas fait un pas et quand on est venu, la chanson était numéro un.
Il faut dire d'ailleurs, parce que en fait moi je ne le connaissais pas tellement, mais bon c'était le mari de Diane Dufresne à l'époque, et donc vous avez fait avec lui ce premier disque à succès, François Cousineau.
J'ai fait quatre albums avec François Cousineau.
Alors François Cousineau, c'est un musicien québécois de votre génération, hein, il est né en 42 aussi. Et vous étiez rencontré déjà quelques années avant. Et vous avez vraiment écrit toutes ces chansons à deux. Et là, il a fait d'ailleurs la musique et aussi les arrangements. Hein.
Les arrangements, la production, tout. Et on a fait 40 chansons pour Diane sur 4 albums. Et moi, j'ai continué après avec d'autres quand ils se sont séparés, puisque c'était un couple. Bon, et c'est pour ça que souvent, c'était très difficile. Parce que bon, il y avait des moments quand ils étaient tous les deux contre moi, c'était très difficile. Mais quand j'étais avec Diane contre lui, c'était encore pire. Et quand on était tous les deux contre Diane, alors là, c'était
la catastrophe.
L'enfer. Bon. Alors, on nous appelait le trio infernal.
Ça, en tout cas, ce que vous nous dites très bien en un mot ici, c'est qu'une chanson, ça s'écrit à trois, au fond. Avec le musicien, avec l'interprète et avec l'auteur.
Idéalement, je trouve que les chansons écrites à trois, c'est quand même que quand les trois sont contents de leur travail, ça fait... Enfin, moi, je pense que c'est un texte qui rencontre une musique et ensuite, la chanson rencontre une voix.
Bon, oui.
J'ai eu la grande chance d'avoir des interprètes dès le départ qui étaient fantastiques et d'autres interprètes. Le succès de Diane m'a amené toutes les chanteuses du Québec, de Ginette Renaud à Pauline Julien,
de
la plus intello à la plus populo.
Bon, surtout des femmes, d'ailleurs.
Dans les années 70, oui. Par contre, quand j'ai fait Starmania, à la fin des années 70, après, les chanteurs masculins sont venus vers moi.
Ils sont venus vers vous, oui. C'est drôle, c'est deux époques assez distinctes.
Julien Clerc et Robert Charlebois, tu sais, parce que dans Starmania, il y avait le SOS d'intérieur en détresse, il y avait le blues du businessman, il y avait, quand on arrive en ville, il y avait des belles chansons. Là, les gens ont compris que je pouvais écrire autre chose que des chansons pour des femmes.
Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce samedi matin. Vous êtes venu presque en voisin, hein, vous traversez la Seine.
Oui, j'ai cet appartement à Paris devant la Tour Eiffel
depuis très longtemps.
Ben, depuis à peu près. depuis 40 ans, depuis Starmania. Quoi.
Voilà, mais cela dit, votre vie est assez itinérante entre plusieurs pays. On va revenir sur quelques-unes des musiques que vous aimez, qui vous ont marqué, que vous avez écrites. Alors, j'ai choisi pour commencer, vous allez peut-être me traiter de ringarde, je ne sais quoi, mais une chanteuse québécoise d'autrefois que j'adore. Je suppose que vous connaissez son nom, mais on va l'écouter tout de suite, La Bolduc.
Ah ben oui, j'ai grandi avec ça, moi.
Mais voilà ma la manchée, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait du mauvais sang. Je me suis fait une bonne onguin, bien guérie d'un pas grand temps. Puis j'en ai hais sur le bout de la langue qui ne m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer, bégayer, bégayer. Du cou qui est aussi grand que 30 sous. J'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un autre sur le bas de l'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'il ternisse pas sous garantie 14 garants. Puis j'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Ça me fait bégayer, bégayer, bégayer. J'ai de la misère à marcher, j'ai une monture en dessous du pied. Quand je mets mes boussillés, je vous assure, ça me fait boiter. J'ai fait ça l'été passé, quand j'étais au Saguenay. C'est à mon âne à baigner, une écrevisse m'a pincé le pied. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer, bégayer, bégayer. Des fois je rhumatise et d'autres fois j'ai la piquette. Quand je mange la soupe au pot, j'ai des brûlements d'estomac. Pour guérir mon mal de rein, je mange des crêpes de sarrasin. Si ça continue comme ça, ils vont chanter mon libérant. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue et qu'il m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer, 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 bégayer. vous êtes comme ça, mes amis, ça veut dire que vous êtes mal pris. J'ai un conseil à vous donner, vous êtes mieux de vous faire soigner avant que ça aille trop loin, allez voir le médecin. Quand on apprend trop longtemps, ça finit par un enterrement. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue et qui ne m'empêche de terre du nez. Puis ça me fait bégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégég
Vous m'en voulez pas, Luc Plamondon, d'avoir ressorti mon vieux disque de la Bolduc ?
Au contraire, parce que c'est les premières chansons vraiment que j'ai chantées dans ma vie. Parce que j'étais au séminaire de Québec déjà, et les jeudis après-midi, on avait congé. Et moi, j'avais ma tante Anna qui avait plusieurs filles et plusieurs. Et un fils. Bon, Marie-Claire, qui avait. Moi, j'avais 12, 13 ans, et elle en avait 14. Et. Chaque fois que j'y allais, elle me jouait les chansons de la Bolduc, parce qu'elle les avait jouées une fois, et je voulais toujours en entendre plus d'autres et d'autres, et réentendre. Et j'ai su par cœur à un moment donné.
Ça veut dire que ça restait une artiste populaire.
Ça me distrayait du grec et du latin au séminaire, oui. Mais
elle était toujours populaire dans les années 50 au Québec, donc dans les familles.
Oui, parce qu'en fait, elle est morte en 41, mais oui, elle était encore jusqu'aux années 60. Il y a eu deux films déjà sur elle et de fiction, et il y en a un autre qui se prépare encore. Il faut pas l'oublier, la Bolduc, parce que c'est génial.
Marie-Rose Travers de Gaspésie.
C'était de la chanson joyeuse, et elle disait des horreurs sur un temps joyeux.
Oui, parce que c'est toujours des catastrophes, que ce soit les maringouins, les agents d'assurance, les vacances ou les enfants.
Elle chantait des gigues, c'était des gigues. La gigue était la musique nationale du Québec, c'était les gigues. Les gigues sont venues avec les Irlandais au 18e siècle. Les chansons de Gilles Vigneault, souvent c'est des gigues aussi, hein, Vigneault.
Donc c'est un mélange d'influences anglaises ou irlandaises et françaises, au fond. Les deux se retrouvent dans ce genre de chansons.
Oui, bien sûr, parce que la gigue en France, en Bretagne, il y a la gigue aussi.
Oui, et donc, en fait, ce qui est fascinant, Luc Plamondon, bon, vous êtes né en 42, vous avez grandi donc après la guerre, mais dans une famille qui habitait en province, comment dire, en France, et où il y avait encore une tradition musicale populaire. Alors, vous écoutiez les chansons de la Bolduc, mais vous aviez aussi votre tante, je crois, Augustine Plamondon, qui, jouait de l'harmonium au village, et puis qui montait des petites opérettes.
Et puis il y avait ma mère qui chantait. D'ailleurs, j'ai fait une chanson qui s'appelle « Ma mère chantait toujours » au Québec, qui est peut-être ma plus célèbre chanson au Québec. Et ma mère, elle chantait des chansons de Luis Mariano et de Georges Guettari et de Tino Rossi. C'est ça qu'elle aimait, qu'on entendait à la radio. Ça, c'est dans mon enfance, disons.
Donc les mêmes qu'on écoutait en France à cette époque-là. Ouais. Enfin, oui.
Et justement, Lucienne Boyer, des chanteuses comme ça. Là. Et par contre. Oui, qu'est-ce que vous m'avez...
Je disais que votre tante Augustine monté des petites opérettes.
Elle était l'organiste du village où je suis né. Elle l'a été pendant 65 ans. Et elle est dans le Guinness Book des records pour avoir joué le même orgue pendant 65 ans. Elle est morte à 105 ans. Alors, c'était une femme merveilleuse et elle montait des petites comédies musicales, des petites opérettes.
Voilà, c'est ça qui est extraordinaire.
Dans la salle paroissiale.
Il y avait donc une tradition de campagne, comme ça, de musique,
et
de spectacle.
Et puis, elle m'a enseigné le piano, que j'aurais jamais pensé, mais j'allais chez ma grand-mère où il y avait un piano, puis quand je mettais toujours mes mains sur le piano, puis il y avait ma cousine Françoise qui jouait du piano, puis je l'enviais, puis ma tante Laura m'a pris, elle m'a amené chez ma tante Augustine, qui m'a fait apprendre le piano entre 8 et 12 ans, et ensuite je suis parti au séminaire de Québec.
Mais le séminaire, c'était pas pour devenir prêtre. Les séminaires, c'était un peu comme des écoles à l'époque.
C'est ce qu'on m'avait laissé croire. Le prêtre, le curé du village a dit à mon père, c'est un premier de classe depuis la première année, et donc on va l'envoyer au séminaire et ça va nous faire un bon prêtre.
Ah oui, quand même.
Ah oui, oui. Alors ma grand-mère, ma marraine, ma tante Aglaé,
l'emprise du catholicisme au Québec,
tout ça, tout le monde. Ils sont tous mis ensemble pour me payer parce qu'il fallait...
pensais que vous auriez fait un bon prêtre, un bon évêque.
Ce qui est extraordinaire, c'est une réflexion que je me suis passée il n'y a pas très longtemps, mais c'est qu'en fait, tous les pensionnaires du séminaire, c'était des gens qui avaient été envoyés par les curés de tous les villages. Mm-hmm. Donc toujours les premiers de classe, en fait. Alors que les étudiants externes, c'était plutôt les fils de bonne famille, filles de la haute ville, fils de la haute ville. Et les fils de la haute ville ne nous aimaient pas parce que c'était nous qui étions toujours premiers de classe et eux derrière.
Ah, voilà. Enfin, finalement, vous n'êtes pas devenu, oui. Vous n'êtes pas devenu curé.
Mais c'est arrivé. Non, c'était à 16 ans, j'ai quitté le séminaire. Voilà.
Et entre-temps, il faut dire que vous aviez fait un certain nombre de découvertes, dont notamment celle de la chanson française plus moderne, disons, que celle qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est en sortant du séminaire, oui.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard, ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards.
Yves Montand, ça fait partie des découvertes importantes pour
parole
vous
Parole de Jacques Plante, oui, qui était un grand parolier comme moi.
C'est vrai. Jacques Plante.
Il a écrit beaucoup pour Aznavour, enfin pour tout le monde, pour Edith Piaf et tout ça. Mais...
Ici, sur une mais musique moi, de Norbert Glanzberg.
Oui, ça, je ne connais pas. Mais moi, le premier chanteur que j'ai vu sur scène, la première grande vedette que j'ai vue sur scène à Québec, c'était Yves Montand. Donc je devais avoir 16 ans. Après j'ai vu Brel, après j'ai vu Aznavour, j'ai vu Beco. Mais le premier que j'ai vu, et c'était de la magie, parce qu'en fait c'était vraiment un chanteur de music hall,
ouais, hein, ouais,
et non
ouais.
pas de musical, comme on dit, parce que on dit maintenant de musical pour une comédie musicale, mais les gens en France ont tendance à dire music hall, mais c'est faux, parce que le music
hall avec un hall, H, c'est le grand spectacle de la chanson.
En France, on disait le music hall.
Bon, bien sûr.
Music hall, c'est un endroit où on fait de la musique. Bon, mais c'était une sorte de chanson aussi, c'est les chansons de Trenet, là. Moi, j'aime le music hall.
Bien sûr.
C'était quand il chantait cette chanson-là, Yves Montand, il faisait un numéro de claquette, il avait le chapeau et la canne et tout un numéro dansé. Son spectacle était monté. C'était vraiment un spectacle de music hall.
Bien sûr.
À l'américaine, quoi. Et c'était.
Ça vous a enchanté alors?
Ça m'avait enchanté, oui. Et puis il avait des bonnes chansons.
Vous avez pensé devenir chanteur à ce moment-là? Vous cherchiez votre voix, vous aviez quitté le séminaire, vous étiez tout jeune. C'était une période où le monde changeait.
Je me suis mis à pianoter, essayer de faire des musiques de chansons. Et puis, j'écrivais des textes de chansons. Et
déjà
puis, j'avais l'impression... Je rêvais d'être un auteur, compositeur, interprète. Parce qu'à ce moment-là, sont arrivés les Gilles Vigneault, les Jean-Pierre Ferland, les Claude Léveillé, il y a une nouvelle chanson française. Bon, il y avait eu, entre La Bolduc et Gilles Vigneault, il y avait eu Félix Leclerc dans les
années
50. Bon, et ça, dans mon adolescence, j'ai connu toutes les chansons par cœur de Félix Leclerc. C'était un immense poète. Mais quand la nouvelle chanson québécoise, on appelait ça la... la on les appelait des chansonniers. Je sais pas pourquoi, ça voulait dire auteur-compositeur-interprète.
Hein, ah oui.
Et il y en avait beaucoup. Et ceux qui ont ressorti, évidemment, bon, c'est Vigneault, les autres. Mais j'ai eu envie ça m'a donné beaucoup envie de chanter. Mais j'ai découvert en même temps la grande chanson française. Et donc, de traîner à Gainsbourg. Parce qu'au séminaire, j'ai pas entendu de chansons comme ça jusqu'à 16 ans. Donc après, il y avait mon frère qui écoutait Elvis Presley, puis moi j'écoutais Aznavour. Bon, j'ai eu une passion pour Aznavour. J'apprenais les chansons, j'ai chanté. Mais maintenant, j'essaie de les chanter, puis bon, je connais les premières phrases, puis après, j'ai oublié.
À propos de grandes chansons françaises, d'ailleurs, c'est dans un spectacle de Guy Béard que vous avez rencontré Diane Dufresne.
Oui, ça c'est un hasard incroyable. Est-ce que j'avais un copain
en
qui
1965.
Était pianiste. J'avais un copain pianiste qui m'appelle un jour et me dit veux-tu venir voir. Non, c'est moi qui l'ai appelé en lui disant j'aimerais bien aller. Lui, il avait une voiture et tout ça. Bon, j'allais entendre Guy Béard, dont j'aimais beaucoup beaucoup les chansons. Mais c'était à une heure de Montréal. Ah, mais il dit, ça tombe bien, j'y vais de toute façon, parce que j'ai une jeune chanteuse que j'aide à ce, et on l'a mis en première partie de Guy Béard. Et c'était Diane Dufresne, elle avait 18 ans. Bon. Et elle chantait, une chanson Aragon Ferré, et puis elle chantait Barbara, puis elle chantait aussi de Vigneault, bon, mais.
Elle n'avait pas trouvé son style encore.
Ben elle n'avait pas de chanson encore, bon, ouais. C'est sûr. Mais après, moi, je suis parti en Europe, je suis parti à Paris. Et un jour, qui est-ce que je rencontre à Paris dans une banque? Diane Dufresne. Deux ans plus tard, oui. Ouais. Elle était venue étudier le théâtre et la chanson et pendant un an. Et donc, on est devenus très copains. Mais moi, je n'osais pas lui dire que j'écrivais des chansons, parce que ils l'ont engagée à l'Écluse.
Où elle chantait. Le haut lieu où Barbara avait fait ses débuts.
Oui, c'était pas longtemps après, et donc pas longtemps après que Barbara soit devenue une vedette, là, à Bobineau, où je l'avais vue, moi, à Bobineau, débuter, Barbara, mais donc Diane a pris la place, quoi. Elle a chanté pendant un an, et puis ça a résonné, il y a eu deux, trois papiers qui ont paru dans les journaux français, donc elle est rentrée à Montréal avec son père, avait amené la fanfare du village à l'aéroport
pour l'accueillir.
Les majorités. Donc finalement, moi j'en suis revenu de mes études pendant 5 ans, J'ai appris les langues.
Oui, vous êtes polyglotte, puis, hein, il faut dire, Luc Plamondon. Vous parlez combien de langues? 5, 6?
Bon, 5, mais il y en a que j'ai un peu négligé. Bon, c'est vrai que l'allemand, je vais pas assez souvent en Allemagne pour m'en souvenir. Mais après ça, j'ai fini à New York, j'étais. Puis à New York.
À New York, il y a une expérience importante, je crois, aussi dans votre formation, dans vos goûts. Ça a été la découverte de R et des comédies musicales.
Oui, parce que j'étais à New York, j'espérais me trouver une place comme vous êtes aux Nations Unies, de traducteur. Bon.
Ah oui.
C'était une des possibilités. Ou alors, c'était enseigner les langues. Ça, c'est venu après. Mais donc, à New York, j'ai vu R.
Ouais, ouais.
Et ça a été une chance, ça a été un choc pour moi de vraiment voir qu'on pouvait écrire des chansons, de faire une comédie musicale avec de la musique rock.
C'est ça.
Parce que j'avais vécu à Londres, hein, à l'époque de 67, ou à l'époque des Stones et des Beatles, et puis j'avais vécu à San Francisco aussi la grande époque, là, 68, 69 de où il y avait toute la contre-culture américaine qui défilait dans les boîtes de nuit et tout ça. C'était
tout ça vous a nourri au fond.
Ben c'est-à-dire que ça me donnait envie de faire des chansons comme les Beatles en faisaient et comme les Stones en, ou les ou, et donc faire une comédie musicale en avec de la musique rock, c'était
quelque chose.
Ça m'avait excité beaucoup. C'est pour ça que quand Michel Berger m'a appelé 3 ans plus tard, en 75, il m'a appelé pour me dire je suis Michel Berger, je voudrais faire un opéra rock avec vous. C'était bon. Et donc, c'était le Messie que j'attendais.
Justement, Luc Plamondon.
J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir.
Fabienne Thibault, que j'avais eu le plaisir de recevoir à cette même place il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, on avait évoqué... Vous savez, on partage l'amour des vaches avec Fabienne Thibault, elle se bat beaucoup pour la défense des vaches.
Oui, mais moi j'ai grandi avec les vaches aussi parce que mon père il avait des chevaux, mais de l'autre côté de la route, il y avait la laiterie et donc il y avait toujours une cinquantaine de vaches. Moi j'adore les vaches.
Voilà.
Malheureusement, on ne les voit plus dans les champs.
Ben oui, c'est triste, elles sont dans des espèces d'usines.
Ils les traitent comme des poulets dans des...
Ah, c'est atroce. Bon, alors vous voyez, en tout cas, quelle jolie voix. Quelle belle chanson, évidemment,
Angélique,
on la connaît
Angélique,
tous. Angélique, hein, oui. Ça marche tout seul. On pourrait presque faire du chant lyrique quand on l'entend.
Elle chantait dans un festival de chansons à Québec, le premier festival de chansons qui existait à Québec, où il y avait toutes les grandes de la chanson québécoise qui étaient là. Et elle chantait sur. Il y avait très tôt au milieu pour des jeunes qui passent et qui chantaient. Elle chantait avec deux musiciens. Et j'ai entendu cette voix un après-midi sur les plaines d'Abraham.
Ah oui.
Et je me suis approché et j'ai dit, c'est Marie-Jeanne.
C'est vous qui l'avez amenée dans Starmania. Donc,
oui, bien sûr.
Berger ne la connaissait pas.
Moi, j'ai appelé Michel Berger, je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé Marie-Jeanne, j'en suis sûr. Et lui, moi j'ai trouvé Johnny Roquefort. Parce qu'il dit, j'ai vu un gars chez Drucker, là, qui s'appelle Daniel Balavoine. En même temps, on avait notre Johnny Roquefort et notre Marie-Jeanne, donc c'est les deux rôles principaux. Ouais.
Le Monde des Stones, c'est la première chanson que vous avez écrite de Starmania.
Ben, c'est-à-dire que quand Michel Berger m'a demandé de venir faire un opéra rock avec lui, on a quand même mis 6 mois avant de s'apprivoiser. On est devenus très amis. Mais lui, il n'avait jamais travaillé avec un auteur, puisqu'il écrivait toutes ses chansons.
Il vous avait repéré par vos chansons, donc
Oui, par les chansons que je faisais pour Diane Dufresne.
Par Diane Dufresne,
ouais,
oui.
Ouais. Et Donc,
il faisait ses chansons lui-même, mais tout d'un coup, il a voulu travailler avec un parolier.
Avec un parolier, oui. Donc, j'ai tous les textes de Starmania, je les ai écrits complètement. Il n'a jamais essayé de changer. Quand une phrase ne lui plaisait pas, ouais, il disait, bon, mais je la changeais. Mais il proposait pas des choses. C'est complètement... Et sa musique, ben c'est pareil. Il a fait... Des fois, je disais quelque chose sur sa musique, il corrigeait si ça ne me plaisait pas. Mais c'était une entente parfaite, sauf que fallait d'abord qu'on fasse une chanson. Et c'était comme si on n'arrivait pas à faire une chanson ensemble.
La première, quoi.
Et ben oui, il fallait la première. Mais il m'avait donné une musique qui très belle, qui était cette musique-là. Mais moi, j'ai écrit à un moment donné seul je marche.
Ah oui.
Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Bon, mais ça, il m'a dit ça. Un Français aurait pu l'écrire. Je t'ai pas fait venir à Paris pour écrire ça. Alors, il m'a dit, bon.
Alors. Faut mettre un petit mot d'anglais.
Donc, j'ai trouvé Stone, mais encore 3 mois plus tard, et puis quand je suis revenu, il a dit là, voilà. Ben ça, c'est pour ça que j'étais venu.
C'est pour ça qu'on aime cette chanson, c'est vrai, ça marche tout seul. Et en tout cas, ce travail avec Michel Berger, ça se passait.
Une fois qu'on a eu cette chanson, là de fait, on est allé s'enfermer dans 2 mois dans une villa sur la Côte d'Azur et on a.
Autour d'un piano, comment ça se passait? Vous pensiez d'abord, il vous donnait d'abord des musiques, vous aviez dit parfois, et ensuite vous cherchiez les paroles. C'était quoi la méthode?
On a fait aller-retour tout le temps. Oui. Mais le SOS d'intérieur en détresse, par exemple, j'ai fait le texte, il a fait la musique.
Ouais.
Mais il voulait faire une musique sur la voix, parce que c'est la dernière chanson qu'on a faite. Ouais. Et c'est une chanson qu'on a ajoutée pour la voix de Balavoine. Mais aussi parce qu'il manquait une chanson, vraiment une grande chanson pour Johnny Roquefort après la mort de Cristal. Donc c'est donc du Monde des Stones au SOS, il s'est passé 2 ans. On a fait toutes les autres chansons et c'est principalement dans l'année 77, donc exactement 40 ans maintenant. On était en train de faire notre casting et on a enregistré en 78 et on a fait la création du spectacle en 79.
Donc alors là, ça, c'était aussi quelque chose
là,
de...
Là, on peut faire le 40e anniversaire de la création en 77, de l'enregistrement en 78 et sur scène en 79.
Mais c'était inhabituel à l'époque de faire le disque avant le spectacle?
Oui, c'était inhabituel.
C'était même nouveau en France, on n'avait jamais fait ça.
Mais même, ça ne se faisait pas non plus
aux États-Unis.
Aux États-Unis. Oui. Ça a existé, oui, je pense, avec Jesus Christ Superstar.
Ouais.
Ouais, Jesus Christ Superstar.
Mais c'était quand même, oui, voilà, inattendu, comme ça. On lance les tubes, ils deviennent des tubes.
Ouais, mais ça, on ne le sait pas quand on lance.
On ne sait pas que ce sont des tubes, bien sûr.
Ça a du mal à décoller. Et puis les radios ont choisi les uns contre les autres. Donc c'était comme la chanson la plus facile à écouter. Mais on ne pensait pas que donc, le Monde des Stones ou le Blues de Businessman deviendraient des tubes. Hein, donc, mais c'est un peu la même chose avec Notre-Dame de Paris.
On ne sait jamais avant.
La première chanson que j'ai faite, c'est Belle.
Oui, justement.
Et c'est drôle parce que c'est Stone et Belle. C'est deux chansons, deux comédies musicales qui sont parties sur un mot. Hein,
et... C'est quoi la différence entre une comédie musicale et un opéra rock? C'est juste une question de style musical ou il y a une différence de forme, de composition?
En fait, ce que je fais, moi, c'est pas des comédies musicales, c'est des opéras rock, c'est des opéras pop, enfin, c'est tout chanté d'un bout à l'autre. Les comédies musicales,
c'est l'alternance des scènes de théâtre et des scènes chantées.
Oui. Ouais. Bon, mais on n'arrive pas à enlever l'expression comédie musicale en France. Ouais. Aux États-Unis, À partir de West Side Story, ils ont enlevé le comédie. C'était musical comedy.
Ah oui.
Et ils ont enlevé le comédie parce que
musical.
Évidemment, ouais. West Side Story, c'était Roméo et Juliette et c'était un drame, mais non pas une comédie.
Bien sûr.
Donc, mais là, on dit encore comédie musicale parce que c'est ancré dans la tête des gens, mais. C'est beaucoup plus proche de l'opéra que de la comédie musicale, Notre-Dame de Paris aussi bien que Starmania.
Oui, parce que c'est
très lyrique et c'est très
tragique.
Et toute l'histoire est racontée en chant barcelonais. On a eu beaucoup de gens qui nous ont copié, non, mais qui ont Notre-Dame de Paris a donné naissance à plein de comédies musicales qui ont suivi, là, les Dix Commandements, les Roméo et Juliette et tout, etc.
Et qui sont pas comiques non plus, d'ailleurs. Moins.
Non, c'est vrai, ils ont pris la même formule. Pour ça devrait être...
Faudrait trouver un nouveau mot pour la langue française pour désigner ce genre de spectacle.
Ouais, parce qu'un musical, c'est pas...
Ben non, ça va pas non plus.
Non.
Vous aviez dans...
Un opéra pop, c'est pas mal. C'est un opéra rock. Enfin, c'est pas toujours rock, hein, mais... Bon, en tout cas...
Vous nous avez dit combien vous aviez été marqué par la découverte de R à New York, mais est-ce que vous aviez vu ensuite la version française avec Julien Clerc avant de travailler avec lui? Vous avez vu le R français?
Non, j'ai pas vu le R français, mais un matin à la radio à Montréal, j'entends une voix qui chante « Laissez entrer le soleil » enfin, « Let the sunshine in », mais en français avec une voix extraordinaire. Et je me suis dit... C'est qui ce gars-là qui chante comme ça avec, c'est au moment où je venais de commencer à écrire des chansons, en 70, que j'ai entendu cette voix. Et moi, je me suis dit, je vais le rencontrer. Bon, et puis, ce qui est drôle, c'est que quand on est venu 2 ans après, donc avec aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie avec Diane Dufresne, Bertrand Delabbé nous a proposé de faire la première partie à l'Olympia de Julien Clerc.
Ouais.
C'est là que je l'ai connu. Mais il y avait Rod Agil qui rodait.
c'est pour ça que vous avez attendu des années avant de faire des chansons pour lui.
Oui. Mais voilà. En plus, ce que j'écrivais à ce moment-là, c'était tellement aux antipodes de ce que chantait Julien.
Ouais.
Parce que moi, bon, je l'avais entendu pour la première fois dans Hair. Mais après, ce qu'il chantait, c'était des chansons, on l'appelait le Rimbaud de la chanson. Et, bon, donc, c'est après Starmania, justement, qu'il est venu me voir, avec une musique très rock, et sur laquelle j'ai écrit Quand je joue. Et après, il y a eu Cœur de rocker, et puis il voulait aller danser, etc. Mais, bon.
Parler un peu de vous, j'ai l'impression, dans cette chanson, Luc Plamondon. Vous avez un cœur de rocker.
Oui, et puis j'étais un enfant de cœur, et puis j'ai eu un cœur de rockeur, et puis j'étais un outsider aussi, quand j'étais un teenager.
Toutes les chansons sont un peu autobiographiques,
non,
d'une façon ou d'une autre.
Rarement. Non, mais celle-là, elle l'est beaucoup, oui, bon. Après, au milieu, j'ai mis un couplet pour Julien Clerc, parce que celle-là qui m'a quitté, ça m'a bien embêté.
C'était au moment de sa propre séparation.
Avec France Gall.
Eh oui.
Non, c'est drôle. Mais le cœur de rocker, c'est un texte que j'ai écrit pour Julien, en pensant à Julien en tout cas, et parce qu'on avait fait, quand je joue avant, qui avait bien marché, et donc on a fait, Lily voulait aller danser aussi avant, donc... Je fais cœur de rocker, j'écris le texte qui s'appelle cœur de rocker, et il m'appelle sur les entrefaites et il me dit que je viens de faire une chanson qui était un vrai rock pour une fois, le plus rock le plus rock des rocks que j'ai fait. Mais
ouais.
Ben j'ai dit écoute, c'est drôle parce que j'étais écrit un texte qui s'appelle cœur de rocker, et il revient de tourner, on se rencontre et le texte, la musique, elle est complètement avec, il l'a chanté. Et
une espèce de miracle, comme ça, deux inspirations parallèles.
Il a un peu, dans les couplets, arrangé la musique, mais le refrain était exactement coupé sur le texte. C'est incroyable.
Vous écrivez parfois une chanson comme ça, juste sous le coup d'une idée, sans savoir qui va la chanter, quelle sera la musique, etc.
Ah oui, souvent. Mais bon, souvent, on pense à quelqu'un, puis c'est quelqu'un d'autre qui la chante, dans la plupart des cas.
Donc à ce moment-là, vous êtes un parolier, donc vous êtes un poète, donc vous êtes un écrivain, en somme. C'est votre métier.
Oui, puis je suis plus proche du... Je dis toujours ça, je suis plus proche du théâtre que de la poésie. Tu sais, quand on me dit, vous êtes un poète, mais...
Ah oui.
Je me considère plus comme quelqu'un qui... Parce que même quand c'est des chansons qui ne sont pas dans les comédies musicales, c'est quand même des chansons, comme je disais tout à l'heure, J'ai rencontré l'homme de ma vie, ça aurait été une formidable chanson de...
Ouais, oui, d'opérette. D'opérette ou de
comédie musicale.
Ouais.
Donc, mes chansons, il y a toujours un personnage
une
dans les
situation,
chansons.
Une situation, oui, voilà. Oui,
oui.
Oui.
Je crée des personnages. Donc, c'est plus proche du théâtre que c'est de la poésie. Je ne suis pas quelqu'un qui...
Et raconter des histoires, écrire des romans, c'est quelque chose qui vous attire ?
J'ai jamais écrit de prose et je crois que je serais capable d'écrire un roman, mais je ne sais pas ce que ce soit.
Vous n'avez jamais eu envie de le faire ?
Non,
on vous l'a proposé, j'imagine.
J'ai beaucoup envie d'écrire du théâtre, par contre.
Ah oui, oui.
Mais faire des comédies musicales, c'est faire du théâtre. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à écrire des chansons et j'ai aussi commencé à écrire des pièces de théâtre parce que j'ai découvert le théâtre en même temps aussi. Au téléthéâtre de Radio-Canada, toutes les semaines, il y avait une grande pièce de théâtre qui était jouée. Des fois, c'était une création, des fois, c'était Caligula de Camus. Bon,
ouais, ouais.
Mais à un moment donné, j'ai compris que faire du théâtre, c'était faire une comédie musicale,
c'était faire du théâtre
aussi. quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué aussi, quand j'avais 16 ans, j'ai vu l'opéra de 4 sous de Brecht et Courtauld,
ouais,
au théâtre Capitole à Québec. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que justement, c'était du théâtre et avec des chansons
avec
dedans.
Des chansons,
c'était
vrai.
Avant la comédie musicale.
Bien sûr. Alors, une toute petite parenthèse, Luc Plamondon, parce que vous m'avez fait vraiment plaisir quand on préparait l'émission. J'imaginais pas du tout une seule seconde que vous alliez nous proposer une chanson d'Yvonne Printemps.
Oui, mais moi, c'est une chanson que j'ai fredonnée beaucoup dans ma jeunesse. Et je sais pas, j'ai pas été un grand fan d'opérette dans ma vie, non. Mais cette mélodie-là, ce texte-là, c'est tellement beau. Et la voix d'Yvonne Printemps, je peux vous la chanter, mais malheureusement...
Ce sont des paroles d'Albert Villemette.
Je ne citerai pas vos auditeurs. Mais
allez,
vous savez, l'opérette en France a duré jusqu'aux années 70. Et moi, je suis arrivé directement avec un opéra rock, Starmania. Donc, il n'y a pas eu de transition. Il n'y avait pas les comédies musicales américaines à ce moment-là ne marchaient jamais en France
quand c'était
traduit en français et tout ça. Bon, et donc Il y a West Side Story qui avait marché très fort, mais en film.
En film,
et
bien
le
sûr,
film avait été à l'affiche pendant 9 ans sur les Champs-Élysées, dans le même cinéma.
Ça change un peu aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où l'opérette s'éteignait, la comédie musicale ne la remplaçait pas, et là est arrivé l'opéra rock qui a effectivement changé un peu la donne. Ouais. Allez, on retrouve quelques secondes de la voix d'Yvonne Printemps.
Oui, je suis, je me rencontre en retard et j'en ai honte, mais il faut que je vous conte ce qui vient de m'arriver. Je passais aux Tuileries quand dans une allée fleurie une voix s'est élevée à moi que j'ai rêvé.
Et je peux témoigner, témoigner que vous avez chanté en duo avec Yvonne Printemps et Luc Plamondon.
Et croyez-moi que j'ai toujours pensé que c'était une grande chanson française d'opérette, mais j'ai réalisé en voyant le texte où c'est une traduction d'une opérette allemande.
D'une opérette viennoise pour la musique, mais les paroles ont été quand même refaites par Wilmette en français, bien sûr.
Oui, c'est sûr, mais c'est une traduction d'une opérette allemande. Non, viennoise.
Viennoise, de langue allemande.
Oui, c'est les valses viennoises, oui.
Alors, une autre grande dame de la chanson française avec qui vous avez travaillé, ça n'a peut-être pas été si facile que ça, d'ailleurs, même s'il nous en reste un très beau spectacle et des très belles chansons, ça a été Barbara dans Lili Passion.
Oui, bien sûr.
C'était pas simple.
Ça n'a pas été simple, non, parce que...
En 1986.
Ça n'a pas été simple, mais quand même, il y a des belles chansons que j'ai faites avec elle.
C'est elle qui est venue vers vous, là, encore ?
Elle était venue me chercher, oui, un soir... C'était la première de Charlebois à l'Olympia. Et j'avais écrit « Je t'aime comme un fou » cette année-là. Et il l'avait chanté en ouverture et il avait repris en rappel. Et elle était au premier rang et elle avait un grand boa noir. Et elle s'est levée debout et elle a lancé son boa à Charlebois qui l'a attrapé. Et il s'est enveloppé dedans en chantant « Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou ». Alors, je me suis dit... Dans la coulisse, j'ai demandé à Madame Cocatrix, est-ce que vous pourriez me présenter à Barbara? Peut-être qu'elle ne me connaît pas, mais... Alors, je me dis, mais viens, je te... Barbara, tu connais Luc Plamondon? Ah, c'est toi, Luc Plamondon! Ah, donnez-moi, Paulette, donnez-moi ça fait très longtemps que je veux te rencontrer, Donnez-moi une loge. Et elle m'a enfermé avec elle dans la loge. Et elle m'a dit, je veux écrire une comédie musicale avec toi, j'ai l'histoire. Elle m'a raconté l'histoire pendant 20 minutes et enfermé.
Ah oui. Et c'était vraiment déjà Lili Passion.
Elle m'a donné rendez-vous le lendemain soir. Elle m'a envoyé son chauffeur. Et puis voilà, c'était...
Mais c'était possible.
Toute la nuit.
C'était possible d'écrire avec elle.
Oui, mais elle n'avait pas rien écrit depuis 5 ans. Et quand je suis arrivé avec un texte le lendemain, elle m'a dit, puis elle a fait la musique dessus, elle l'a joué toute la nuit. Et elle m'a dit, elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a dit, en pleurant, je n'avais pas fait de musique depuis 5 ans.
Voilà, ça a été créé.
Donc c'était une chanson qui s'appelait L'île aux Mimosas.
On va l'écouter d'ailleurs.
Mais que Gérard Depardieu.
Vous avez vu la reprise récente par Gérard Depardieu?
J'ai le disque, je l'ai pas vu, mais je sais que le disque, c'est la première chanson dans le disque. C'est bien bien écrit, parole.
Et le spectacle.
Musique Barbara et parole de Plamondon.
Hein, oui, parce qu'il y a certains, livres où on a l'impression qu'elle s'est un petit peu appropriée la chose après coup, non?
Oui. On peut et Depardieu aussi.
Et Depardieu aussi.
Bon. Mais j'ai travaillé un an et demi avec elle. Ça a été formidable parce qu'elle était tellement drôle.
C'était un succès pour vous, ce.
Le plus drôle que j'ai
drôle, connu. Barbara.
Ah, elle était tellement drôle.
Ah bon?
Ah oui. Ça se moquait de tout. Regardez la télé, ses commentaires, c'était tout le temps drôle. On croyait qu'elle vivait comme une nonne dans un presbytère, mais au contraire, elle savait tout ce qui se passait. Elle appelait à l'Élysée Matignon, qui était la boîte de nuit à la mode, pour demander à Bouvier qui est-ce qui était là le soir, et puis avec qui. Catherine Deneuve était, etc.
Ah oui, c'est bon,
elle demandait des nouvelles mais elle vivait cloîtrée, effectivement, toujours habillée de noir et toujours habillée en Barbara, même le matin quand elle descendait l'escalier, parce que moi je couchais dans la chambre au fond et en bas. Et elle était déjà en Barbara.
Que j'ai souvent cherché à travers d'autres regards, et si l'on s'était trouvé et qu'il ne soit pas trop tard, pour le temps qu'il me reste à vivre, j'amarrerai mon piano vivre pour pouvoir vivre avec toi sur ton île aux mimosas, et comme deux chevaux courant dans la prairie, et comme deux oiseaux volant vers l'infini, et comme deux ruisseaux cherchant le même lit, nous irions dans le temps droit comme des roseaux. Quand sous le poids des ans, nous courberions le dos, ce serait pour mieux voir ensemble à la même eau. Et si tu m'avais cherché,
je t'ai cherché,
de soir en soir, de part en part, imagine que tu m'aies trouvé,
je t'ai trouvé,
et qu'il ne soit pas trop tard,
il n'est pas trop tard.
Pour le temps qu'il me reste à vivre, veux-tu stopper ta vie pour pouvoir vivre avec moi sur ton île aux mimosas? Nous aurions la fierté des tours de cathédrale, et nous serions plus près du ciel et des étoiles. Nous saurions le secret des aurores boréales. Il y a si peu de temps entre vivre et mourir, qu'il faudrait bien pourtant t'arrêter de courir. Toi que j'ai souvent cherché à travers d'autres regards, si l'on s'était trouvé, qu'il ne soit pas trop tard. Pour le temps qu'il me reste à vivre, amarrons notre bateau ivre pour pouvoir vivre toi et moi sur ton île aux mimosas. Oh, toi que j'ai pour le temps qu'il me reste, je voudrais vivre avec toi sur ton île aux mimosas.
Lille au Mimosa Barbara 1986, c'était au Zénith avec Gérard Depardieu.
Oui, qu'on entend d'ailleurs.
Qu'on a entendu tout à l'heure.
Quelques réponses.
Voilà. La version définitive, enfin ça a été la version créée, mais vous avez dans vos tiroirs une version avec d'autres personnages que finalement qui a été laissé de côté, que vous espérez peut-être reprendre un jour.
D'autres personnages et d'autres chansons, des très belles chansons inédites. J'ai 6 chansons inédites dont j'ai fait le texte, elle a fait la musique, et puis il y avait un très beau personnage là de la groupie qui suit la chanteuse et qui est son ange gardien. C'est un très beau personnage, et puis il y a 2 personnages drôles.
Version à venir peut-être alors.
Peut-être, oui, j'aimerais bien qu'on la joue une fois. Parce que bon, finalement, ils ont fait un spectacle à 2. C'était Barbara Depardieu, c'était comme un tour de chant avec des chansons qui... Elle chantait les chansons, lui déclamait des textes. Des textes assez poétiques qu'elle lui avait écrits finalement. Et donc, c'était un très beau spectacle, mais moi, j'étais un peu surpris de qu'on ne m'ait pas informé.
Des changements.
Oui, à la première, je me suis énervé un peu, ouais.
Alors, en 78, Starmania, événement évidemment dans l'histoire du spectacle musical en France, et puis... 20 ans après, et il y a 20 ans de ça aujourd'hui, presque maintenant, en 98, autre tournant dans l'histoire du spectacle musical en France, on peut dire, avec Notre-Dame de Paris. Vous aviez prévu que ce serait un tel événement, un tel coup de tonnerre dans l'histoire du spectacle et de l'opéra rock français?
Absolument pas, parce que moi j'ai été considéré comme un parolier rock, rock pop. J'avais écrit plein de chansons pour Céline Dion et pour Julien Clerc, etc. Puis pour j'avais fait Starmania surtout, et Starmania, c'est j'étais Monsieur Starmania. Bon, c'était on me présentait toujours Luc Plamondon qui a écrit bon aussi pour Diane Dufresne.
Ouais,
bon,
bien sûr,
pour dans la tête des gens, je pouvais pas faire Notre-Dame de Paris. Quand je disais ça.
Un grand mélo.
Je disais, oui, mais moi, j'ai fait le séminaire de Québec, j'ai fait de la littérature pendant plusieurs années, et je savais que je me trompais pas, mais il fallait trouver quelqu'un aussi pour faire la musique, et j'avais dans un tiroir des musiques de Richard Cochant qui m'avait donné en 86, quand on avait enregistré Question de Feeling à Londres.
12 ans avant.
Oui, mais là, on est en 94 quand j'ai décidé de
le faire.
De faire ça avec lui. Je l'ai appelé. Et voilà, il y avait une chanson où il chantait Time, ta-da-di-da-da-da-di-da-da-da, Time. Il y avait Time 42 fois. Alors moi, j'ai mis Belle à la place. et ça fait que.
Vous avez découvert Garou aussi à ce moment-là. Ça a été important,
Garou,
évidemment.
Fiori, etc. Non, Hélène Segarra.
J'ai envie de dire, pour moi, c'est un tournant historique, Luc Plamondon. Parce que on peut dire que jusqu'à Notre-Dame de Paris, il y avait la chanson française et puis la chanson québécoise qui avait été influencée beaucoup par la chanson française à ses débuts. Et tout d'un coup, c'est la chanson québécoise qui est presque devenue le modèle de la chanson française à partir de ces années-là.
Qui a ramené les
c'est extraordinaire.
Les chanteurs à voix. Je l'ai fait 2 fois.
Ce changement? C'est les chanteurs à voix, vous dites.
Avec Starmania, déjà. Ouais. Il faut avoir des voix pour chanter.
Ouais,
on peut pas. Bon, et dans Notre-Dame aussi. Donc, 2 fois, j'ai créé comme un modèle j'ai ramené
quoi?
J'ai ramené la voix dans la chanson,
Le lyrisme.
Bon, il y avait, c'est sûr, le Johnny, puis les Sardou, puis les Serge Lama et tout, qui étaient les grandes vedettes mais le reste, la chanson, yé, tout ça, c'est la chanson disco, mais il n'y avait pas vraiment de chansons à voix. Et je l'ai refait 20 ans plus tard. Ce qui est le plus étonnant, c'est que Starmania n'ait pas amené des chanteurs, des compositeurs pop à essayer de faire ce que j'avais fait avec Starmania.
Ouais, ouais.
Alors que, avec Notre-Dame de Paris.
Alors là, c'est devenu un modèle, vraiment, oui, on peut dire, qui a été décliné sur toutes les grandes scènes.
Mais Obispo m'a dit, moi, tu sais, il est venu me voir, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, j'ai fait les 10 commandements. C'était la première des 10 commandements. Il me dit, moi, j'ai fait ça parce que j'étais à Starmania au Palais des Congrès quand j'avais 18 ans. Il dit, 20 ans plus tard, c'est sûr que je le fais parce qu'on... Parce que Notre-Dame, mais c'est parce que moi, il dit, c'est parce que j'ai vu. Et ces deux sont pas reliés aussi. Laurence, qui m'a dit la même chose, qui était là aussi. Et bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte que dans Starmania, il y avait plein de Bruel qui me disent qu'ils étaient là. Ils étaient là, mais c'est...
Mais c'était peut-être aussi ce que vous avez trouvé. Vous parliez tout à l'heure des paroles de Le Monde est Stone avec ce mot anglais, mais c'est l'alliance de la langue française avec le style de la musique pop qui n'était pas évident. Parce que la langue française ne se marie pas forcément très bien au rock. Et vous avez trouvé la solution, peut-être parce que vous êtes québécois et que vous avez aussi une culture un peu américaine.
Non, mais il faut dire aussi que ça n'a pas été au départ le spectacle de Starmania. Oui, l'album a démarré très fort, mais le spectacle a été, par les critiques,
moyennement apprécié.
Tièdement apprécié. Ouais. Et donc, les chansons qui, au cours du temps, sont devenus des tubes et finalement au bout de 10 ans on avait 7-8 chansons qui étaient des grands tubes et qu'on s'est dit on va le remonter et puis après ça en 93 après la mort de Michel on a refait une autre version encore à Mocador qui a parcouru la France et le monde pendant 8 ans donc on a 3 millions de spectateurs mais on a mis 30 ans pour faire 3 millions de spectateurs alors qu'avec Notre-Dame de Paris on a eu 3 millions de spectateurs en 3 ans
tout de suite quasiment
c'est des producteurs qui sont jetés sur l'idée de faire des comédies musicales après Notre-Dame de Paris parce qu'ils ont vu que ça pouvait rapporter beaucoup Gérard Louvain, entre autres, les Cohen et comment ça s'appelle, ça a été des comédies musicales de producteurs.
Alors, quelqu'un qui incarne fort bien l'apothéose, si on peut dire, de cette chanson québécoise avec qui vous avez beaucoup travaillé, on va l'écouter maintenant. On pourrait croire d'ailleurs que c'est elle qui a écrit cette chanson pour vous parler à vous, puisqu'il s'agit de Céline Dion.
Préférer c'est d'avoir du fun. Mais moi j'ai besoin de ma chanson. Toutes mes lignes de téléphone sonnent. Je suis bookée à la télévision dans tous les shows de promotion. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas ma chanson? De quoi je vais avoir l'air? Alors je n'avais pas mis un numéro 1. Je suis en studio de sens à ma musique. Écris-moi des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Écris-moi des mots qui cognent sur l'accent tonique. Écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots qui sonnent. Je peux venir te tenir la main, te faire un double expresso. Faut que tu me la finisses avant demain, sinon mon planning tombe à l'eau. Donne-moi au moins l'idée du refrain, faut que je tourne une vidéo. Tu peux parler de tout et de rien, pourvu que j'aie mon scénario. Donne-moi juste une heure de ton inspiration. Écris-moi des mots qui résonnent, écris-moi des mots qui sonnent. Écris-moi des lignes qui swing comme du Sting, qui sonnent comme du Jackson. Des mots qui riment, des mots qui passent et qui balancent. Des mots qui disent ce que tu dirais toi si tu avais ma voix.
Luc Plamondon, il va falloir que vous reveniez parce qu'on n'a pas épuisé tous les sujets. Mais non, là c'est, elle vous parle, Céline Dion, mais c'est vous qui avez écrit les paroles quand même.
Oui, oui, mais non, mais j'étais très poursuivi par toutes les chanteuses du Québec pour leur écrire des chansons. Ah, voilà, j'avais fait un cauchemar une nuit qu'elle me courait après moi, elle m'avait sorti de mon lit et qu'il y avait 5 chanteuses qui attendaient leurs chansons. Et c'est... Et Diane Dufresne qui était jalouse, et puis...
C'est très drôle, en tout cas.
Bon.
Des mots qui sonnent, c'est le 1991, hein, un de vos nombreux albums.
Oui,
elle avait
23 ans, c'est voilà. le... Ouais.
On doit malheureusement se quitter dans quelques minutes. Mmh. Dites-moi, vous écriviez un opéra d'après la Rosamund, les musiques de scène de Schubert, pour l'Opéra de Montréal, je crois. C'est toujours un projet d'actualité,
non,
ça?
Non, mais c'était pour l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est Kent Nagano qui m'avait mis ça en tête d'écrire...
Des textes de liaison, en somme.
Des textes de liaison, bon. Voilà. Mais moi, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez ça, demander à un auteur de théâtre, il y en a plein à Montréal, mais moi... J'ai écouté la musique et c'est sur ça très beau, et moi je voudrais mettre des paroles sur cette musique. Bon.
Bien sûr.
Et ça a commencé comme ça. Bon, c'est l'idée de faire un concert avec des chanteurs lyriques. Bon. Après, à un moment donné, bon, moi je me dis quoi? Si j'écris pour des chanteurs lyriques, c'est ce qu'on a toujours entendu. Schubert chanté par des chanteurs lyriques. Alors, ouais. J'ai essayé avec des chanteurs pop. Là, j'ai 30 chansons de fête. Je fais des maquettes. Et, bon, j'ai les mélodies de Schubert, j'en ai choisi 50, parce que dans Sarmanière et dans Notre-Dame de Paris, il y en a plus de 50. Hein, bon.
Ouais.
Donc j'ai choisi 50 mélodies qui me plaisent à moi et qui sont, que j'ai dépouillées complètement de leurs arrangements et tout. Mais
la simple mélodie.
La mélodie et une chanson, c'est une mélodie et un texte en dessous. Hein,
bon. Bien sûr.
Donc,
c'est pour bientôt alors. On va y arriver.
Je vais faire avec les meilleurs chanteurs, les meilleures voix pop que je vais trouver et que je commence à trouver, oui. Et...
Mais ça fait un moment, il faut qu'on y arrive là.
C'était normalement pour l'année prochaine, mais comme on fait une grande production de Starmania l'année prochaine pour les 40 ans, bon, il faut que je me consacre à ça et d'autre part,
une chose
pas
après l'autre.
Faire une création en même temps que le retour de Starmania, ce serait me tuer moi-même, alors me tirer dans le pied, comme on dit.
On l'attend avec impatience, mais on l'attend toujours ensemble. Ça va venir.
Probablement 2020. Bon, 2020. Moi, je veux que ça soit très beau et il faut prendre le temps de le faire.
Il faut malheureusement nous quitter, Luc Plamondon. On va se quitter avec les musiques, un petit extrait de la reprise de Notre-Dame de Paris qui est en tournée en France, hein, partout. Beau spectacle,
oui, partout,
en ce moment.
Partout à travers la France.
Vous êtes content de la reprise, j'imagine.
C'est un triomphe. Là, j'ai été voir à Marseille et puis j'ai été voir à Genève le week-end dernier. Et le monde, le public est là comme la première fois aussi. Il y a des gens qui reviennent, il y a des enfants, beaucoup, beaucoup de jeunes dans la salle. C'est très étonnant.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, Luc Plamondon. Et puis, comme vous habitez pas loin, dès que vous voulez traverser la Seine, le micro est ouvert.
Ah, d'accord. Avec plaisir.
À bientôt.
Ah ben, moi, je peux vous parler toute la journée. Hein.
C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir, nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré.
Notre-Dame de Paris en tournée en ce moment dans toute la France. Voilà, le mieux c'est d'aller voir sur internet, je pense que c'est très facile à trouver. C'est une des nombreuses œuvres de mon invité ce matin que j'étais si content de recevoir, Luc Plamondon. Je vous renvoie aussi évidemment à tous les sites, les musiques, les disques que vous pourrez trouver à ce sujet. Merci encore à lui d'avoir été avec nous ce matin.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et tiens, puisque nous avons parlé de musique viennoise, écoutons cette grande valse de Carl Michael Tirer, les bourgeois viennois.
Mmh.
les bourgeois viennois, ou plus exactement d'ailleurs les citoyens viennois, Wiener Bürger, c'est le nom de cette grande valse de Karl Michael Zierer, qui a été l'un des grands musiciens de la musique légère viennoise à l'époque de Johann Strauss fils, et on lui doit beaucoup d'œuvres célèbres, dont certaines sont d'ailleurs parfois reprises au cours du concert du Nouvel An. Là, c'était l'orchestre philharmonique de Vienne, justement sous la direction de John Elliott Gardiner. Et pour terminer cette émission, je vous l'ai promis, une petite archive, une merveilleuse petite archive signée Léo Delibes, du temps où il écrivait des opérettes. Il était jeune compositeur, il s'essayait comme cela au métier dans des petites opérettes en un acte, dont celle-ci, les deux vieilles gardes malades abominables qui, au lieu de soigner leurs malades, ne pensent qu'à boire du punch au chevet de l'agonisant. Et ça donne cette polka endiablée, interprétée par la troupe de Radio Lyrique.
Du roseau, non, ça sent plutôt l'anisette. C'est peut-être du vespétro. Ça vient de loin, ça vient de loin, dit l'étiquette.
Ce soit de la Chine ou du Congo, j'en avalerai à gogo.
Ce soit de la Chine ou du Congo, j'en avalerai à gogo.
Et moi, j'en bois à la fin.
Que ce soit de la Chine ou du Congo, moi j'en avalerai à gogo. Versez, versez, moi j'aime le doux verser. Vive les glou glou, versez, versez, moi j'aime le doux verser. Vive les glou glou, glou glou glou, glou glou glou. Quand j'ai bu, je suis en petite soupe. Glou glou glou, glou glou glou. Pour rien, je ferai sans coup. Quoi, quand j'ai bu, je suis sans une soupe. Pour rien, je ferai les sans coup. Versez, versez, moi j'aime le doux verser. Vive les glou. Merci, merci, vive les gloulous, merci, 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 j'aime le doux et les gloulous, 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 gloulous. Quand j'ai bu, je suis sans dessus-dessous, gloulous, 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 gloulous. Pour un mariage, je pourrais des sans coups, gloulous, 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 gloulous. C'est bon contre l'humidité.
Donnez, il faut que j'en reprenne.
Ah, vraiment, j'ai trop de bonté, mais j'éclate.
D'où que ça vienne, buvons ma vieille à notre santé.
Buvons ma vieille à notre santé.
Encore si c'était à la mienne.
À notre santé.
Encore si c'était à la mienne.
À notre santé. D'où que ça vienne à notre santé. Buvons ma vieille à notre santé. Versez, versez, moi j'aime le doux verser. Vive les clous. Versez, versez, moi j'aime le doux verser. Vive les clous, 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 clous.
J'ai comme des sauterelles dans les jambes. Oui, 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 oui. Il me prend des envies de danser la polka.
Vous aimez la polka? Oui, oui, et moi aussi. Oui, je la préfère à la trémisse et à la chienne des dames.
Eh ben, pendant que le malade dort, régalons-nous-en.
Eh oui.
C'est ça, prenez vos billets.
Vive la polka, moi je raffole de ce bal-là. On saute par-ci, on se penche par-là. Vive la polka, moi je raffole de ce bal-là. On saute par-ci, on se penche par-ci, par-là. Vive la polka, moi je raffole de ce bal-là. On saute par-ci, on se penche par-là. Vive la polka, moi je raffole de ce bal-là. On saute par-ci, on se penche par-ci, par-là. Je la préfère à la mazurka.
Je la préfère à la mazurka.
La scottish ou la ketchoucha.
La scottish ou la ketchoucha.
Vive la polka, vive la polka.
La mazurka, la scottish, la frottish, la ketchoucha.
la polka, moi je m'envole de ce bal-là. On se mange par-ci, on se mange par-là. Vive la polka, moi je m'envole de ce bal-là. On saute par-ci, on se mange par-là. Vive la polka, vive la polka. Je préfère à la mazurka, la scotty, joue la katucha. Vive la polka, vive la polka. La polka, mazurka, la polka, mazurka, 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 mazurka,
Et il paraît que cette petite polka a fait fureur à Paris l'année où est sortie l'opérette en un acte de Léo Delibes, Les Deux Vieilles Gardes. C'était en 1859. Léo Delibes n'avait que 19 ans. Il était à l'aube d'une brillante carrière. Comme vous savez, on a un peu oublié ces petites opérettes délicieuses, surtout quand elles sont jouées par la troupe radio-lyrique, aussi bons acteurs que chanteurs ici. André Balbon, René Lenoti, Joseph Perron, l'orchestre radio-lyrique sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. C'était en 1962. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Benoît Latil, entouré de Jean-Paul Lafavergès, Thibaut Gouffier, réalisation Pierre Villers. Et bien entendu, on se retrouve samedi prochain et même les autres samedis. Tiens, pour finir, je vous précise les deux prochains invités. D'abord, la semaine prochaine, j'ai la joie d'accueillir Jean-Philippe Lafont. Et puis, la semaine suivante, ce sera Hervé Baudot qui viendra nous raconter la vie du très sympathique et très talentueux Maurice Baquet. Voici pour les deux prochaines émissions. Mais maintenant, sur France Musique, il est midi et demi. C'est l'heure de retrouver Philippe Venturini.
Merci, à la semaine prochaine, Benoît Dutertre.